Une heure en France. Denis Farrot, Frédéric Le Ternier sur France Bleu.
Quand des véhicules électriques en autopartage ont vécu une première vie dans les villes comme Lyon, Bordeaux ou Paris avec Autolib, que deviennent ces véhicules d'occasion que l'on disait voués à la casse?
Le gâchis a été évité. Les voitures sont retapées et revendues à des particuliers à des prix apparemment intéressants.
Après une vente dans le Loir-et-Cher au mois de novembre, une nouvelle vente a lieu ce week-end dans le Morbihan à Quévent et c'est le chef des ventes du garage Autopes qui est avec nous. Bonjour Quentin.
Bonjour.
Alors comment ces anciennes voitures électriques que vous vendez ce week-end en Bretagne sont arrivées jusqu'à vous?
Eh bien en fait, à la base on est une plateforme donc, de pièces de rechange, une plateforme PSA. Oui. Et en fait, en discutant un petit peu sur au sujet des ventes de câbles, en fait, les câbles d'alimentation des véhicules, on a pu rencontrer quelqu'un et ce projet en fait a germé chez nous et avec aussi toutes les événements sociaux en fait sur le carburant qui a pu avoir au mois de décembre et la proximité de l'usine Bolloré hein, qui est à Quimper à 50 km de chez nous, le projet a germé et c'était comme vous l'avez dit de pouvoir récupérer et puis éviter un gâchis en fait de véhicules qui allaient partir pour destruction.
Et vous allez vendre combien de voitures électriques donc ce week-end?
Eh bien, Romorantin, il y a eu à peu près 250 véhicules vendus. On aimerait bien, on espère, en vendre un petit peu plus et faire le maximum d'heureux.
Mais vous avez combien de voitures à la vente?
Alors nous, on en aura, on a un stock environ de 500 véhicules.
D'accord.
Donc il y en aura une trentaine qui seront présentés au public. Donc les premières personnes pourront choisir les véhicules. Et ensuite, ça sera des pré-réservations qui s'opéreront auprès de nos futurs clients.
Alors, dans quel état sont ces véhicules qui ont déjà servi, beaucoup servi pour certains en ville, avec quel kilométrage, par exemple?
Alors, c'est assez aléatoire. Ça va de 20 000 jusqu'à 90 000 kilomètres maximum. Dans, pareil, des états carrosserie, il y a un petit peu de tout. Nous, elles sont toutes reconditionnées, mais c'est vrai que elles ont une âme, elles ont une histoire. Donc, elles vont garder des bosses, elles vont garder des griffes. Mais nous, on refait tout l'aspect mécanique, le contrôle technique. Voilà, elles seront révisées et prêtes à partir pour les personnes.
Et pourquoi ce prix unique de 4 990 euros si elles ne sont pas toutes dans le même état?
Vous préférez la voiture à 20 000 km que 90 000, j'ai l'impression, Frédéric.
Il y a un petit peu tout. L'état de carrosserie ne reflète pas forcément le kilométrage parce que il y a eu des véhicules de Paris, il y a eu des véhicules de Bordeaux, de Lyon. Et en fait, suivant les arrivages, on ne sait pas toujours. Il y a des véhicules qui des fois sont très abîmés et ont pas beaucoup de kilomètres et vice versa. Donc, on a fait un choix de faire un prix unique, de reconditionner au mieux ces véhicules-là et de permettre à tout le monde. Il n'y aura pas de fausse surprise en achetant son véhicule. Donc, c'est de pouvoir permettre à tout le monde d'accéder à un véhicule électrique au meilleur tarif.
Alors, les anciennes voitures électriques en autopartage qui sont vendues à des particuliers, les Autolib à Paris ou d'autres à Lyon ou Bordeaux se rechargeaient sur des bornes en ville. On fait comment à la maison?
C'est très simple. Nous, les véhicules ont été équipés en fait d'un boîtier qui vient juste convertir en fait, et du coup on peut se brancher sur n'importe quelle prise 220 grâce au câble de recharge qui est fourni avec le véhicule le jour de la vente.
Vous voulez dire qu'on recharge sa batterie comme on recharge son téléphone en fait?
Exactement.
Et est-ce qu'on peut bénéficier de la prime à la conversion sur cette vente?
Oui, les véhicules donc sont éligibles suivant les critères par l'État, mais on peut toucher une prime à la conversion.
Alors tout le monde s'y retrouve, apparemment les voitures ne sont pas parties à la casse, elles ont été rachetées et sont revendues, et au-delà des affaires, évidemment c'est plus écologique pour un parc de voitures qui se voulait justement écologique.
Il y a quelque chose que j'ai relevé moi, Quentin Mazeret, c'est qu'on peut customiser les voitures, c'est-à-dire le garage propose cette offre de repeindre en violet, pourquoi pas si on veut?
Pourquoi pas, oui. Il y a vraiment une palette de couleurs qui est donnée. Alors il y a deux possibilités. Soit la première, on fait un covering donc sur le véhicule, donc moyennant 1500 euros. Soit on
c'est quoi un covering autre... Excusez-moi de vous interrompre, j'ai pas compris.
C'est une nouvelle peinture.
C'est une sorte d'un grand sticker en fait qui vient sur toute la carrosserie en fait.
D'accord. Très bien. Après, donc cette option-là et puis sinon on la fait repeindre.
Exactement. Donc une prestation supplémentaire et toujours pareil, un coloris au choix.
En violet, donc.
avec les initiales de Frédéric Le Tournier.
FLT, là, derrière, c'est parfait. Oui.
La seconde vie des autolibres vendus après avoir été en autopartage en ville.
Et à mon avis, vous aurez beaucoup de monde au rendez-vous, Quentin Meseret. Hein. Ça a eu beaucoup de succès déjà à Romorantin.
Oui, on attend, toutes nos équipes sont prêtes et motivées, on attend énormément de monde.
Eh bien, on vous souhaite une très belle vente et merci de nous en avoir parlé dans Une Heure en France aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Bonne journée, à bientôt. Au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Une Heure en France, Frédéric Le Tournier, Denis Farou sur France Bleu.
On attendait la fin des travaux pour vous présenter le nouveau médusarium de l'Aquarium de Paris. Une des toutes premières collections mondiales de méduses y est présentée.
On peut voir 45 espèces de méduses du monde entier par roulement, comme la méduse boulet de canon ou la méduse lune.
Il s'agit aussi de sensibiliser le public aux enjeux du climat tout en montrant la beauté des océans dans un décor magnifique. Le capacitaire de l'Aquarium de Paris est avec nous sur France Bleu. Bonjour Guillaume Éveillard.
Bonjour.
Alors l'image qu'on a de la méduse, c'est que l'on préfère ne pas en rencontrer quand on se baigne, mais j'imagine que c'est une image un peu réductrice.
Oui, effectivement, les gens préfèrent les voir à travers une vitre que d'être dans la mer à côté.
C'est inédit, c'est une prouesse, ce médusarium, ça n'existait pas en Europe. C'est donc le fruit d'une collaboration étroite avec le Japon et l'aquarium de Camo. Les spécialistes ont beaucoup échangé pendant des années.
Tout à fait, ça fait 5 ans qu'on va régulièrement au Japon, plusieurs fois par an. Donc j'ai eu l'occasion de faire 3 stages d'une semaine pour être formé à l'élevage des méduses.
Alors comment est-ce que vous décririez une méduse? Il y a des centaines d'espèces, mais des points quand même, avec comment dire, ce qui ressemble à un champignon sur le dessus. Je ne sais pas si c'est très clair,
oui,
ce que je dis.
Bien sûr, c'est ce que souvent les visiteurs disent en arrivant, des champignons qui nagent. Alors non, tout à fait, ça ressemble aussi à un parapluie. Moi, j'utilise le parapluie parce que ça, vous savez qu'il y a des baleines de parapluie et les méduses également, ce qu'on appelle les canaux radiaires, comme ça, qui ressemblent au parapluie. Et puis le manche du parapluie, eh bien, c'est le prolongement de la bouche qui permet de capturer avec les tentacules les proies.
Et Guillaume Éveillard,
c'est très simple.
Guillaume Éveillard, vous nous appelez depuis un des bassins ou parce qu'on vous entend très très mal?
Ah pardon, je suis effectivement à l'aquarium, pas très loin des pompes, donc
peut-être pour ça. Essayez de vous déplacer peut-être un petit peu. Alors c'est un vrai ballet féerique de couleurs et de mouvements qu'on va voir dans ce nouveau médusarium. Il y a notamment des bassins tout à fait neufs et inédits.
Alors oui, ce sont les bassins qu'on appelle le bar à méduses parce que c'est des bassins qui permettent de voir les méduses par en haut, donc presque de pouvoir les toucher. Les gens ont l'impression de pouvoir les toucher. Alors il y a une vitre qui sépare des méduses évidemment, mais on a une approche très particulière et c'est unique au monde.
Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup des méduses ces derniers temps? Parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses, et là je suis revenu aux océans, hein, je suis pas dans l'aquarium, hein. Elles sont de plus en plus nombreuses et peuvent même être nuisibles pour l'environnement.
Oui, on constate qu'il y a de plus en plus de blooms. Alors un bloom, c'est une apparition, une prolifération de méduses, parce qu'il y a un dérèglement actuellement climatique, hein, comme on le sait, le réchauffement des océans favorise le développement des méduses, mais également la surpêche et la pollution.
Et pourquoi il y a autant de manipulations avec les méduses au sein de l'aquarium? Apparemment, c'est très compliqué d'en avoir autant et autant de variétés différentes. C'est fragile comme animal?
Oui, alors, oui, ce sont des animaux très fragiles déjà, c'est très délicat, ça n'a ni squelette ni carapace. Sa seule défense, c'est de piquer, bon, ça lui a quand même permis de survivre pendant 600 millions d'années, donc c'est une espèce qui est très résistante malgré sa fragilité. Mais la difficulté de les présenter au public, c'est que on doit les reproduire parce que, comme les papillons, les méduses sont éphémères. Elles ne vivent que quelques mois, voire quelques années, mais pas plus de 2 ans en général. Donc du coup, pour arriver à en présenter constamment aux visiteurs, eh bien, nous les reproduisons au laboratoire. Donc les 45 espèces de l'aquarium sont maintenues dans des petites boîtes, en fait, et on les fait se multiplier comme ça presque quotidiennement.
J'ai découvert que les méduses ne vivent que parce qu'il y a du courant. Ça veut dire qu'il y a du courant dans les aquariums?
Oui, les méduses sont maintenues dans ce qu'on appelle des carousels, donc comme des manèges à méduses. Elles doivent forcément être portées par le courant parce que sinon elles tombent au fond de l'aquarium. C'est très particulier, les méduses, ça fait partie du plancton et ça doit être porté par le courant océanique. C'est incapable de nager dans les directions contre le courant.
Mais ça doit être hypnotique de les regarder comme ça, les méduses. Est-ce que les gens, vous avez constaté qu'ils restaient vraiment fixés sur les aquariums pour les observer?
Oui, ben les gens sont médusés. Et... non, mais vraiment, les gens sont fascinés par les méduses. Dès qu'ils arrivent, on entend des « waouh, c'est magnifique ». Les gens adorent voir des méduses dans l'aquarium. C'est très photogénique parce que ça bouge finalement assez lentement. Donc, c'est hypnotisant et on peut les prendre en photo facilement. Donc, les gens aiment bien passer du temps, prendre les méduses en photo, les observer. Puis comme on a beaucoup d'espèces, c'est un spectacle fascinant.
Vous avez beaucoup d'espèces, n'empêche que vous avez une méduse qui mange des méduses, ça doit limiter la collection, ça.
Oui, ça nous permet de réguler un petit peu les populations. Effectivement, il y a des méduses qui sont prédatrices, et c'est d'autant plus dur à élever qu'on doit élever des méduses pour nourrir cette méduse prédatrice.
Et les plus dangereuses, elles peuvent tuer un être humain, les méduses ?
Oui, il existe une espèce de méduse en Méditerranée, la Chironex, qui est mortelle pour l'homme. En Méditerranée, pardon, en Australie, excusez-moi.
Alors, ah, il vous paraît
qu'elle aurait pu arriver en Méditerranée, on n'en est pas sûr. Donc, excusez-moi, non, c'est en Australie, pour l'instant, on n'est pas sûr qu'elle soit arrivée en Méditerranée, j'espère pas.
On rajoute
elle
n'est
pas présente pour l'instant.
Quelques kilomètres.
Mais elle est présente en Australie, voilà. Donc, sur les plages australiennes, parfois, la pêche, la baignade est interdite à cause de cette méduse mortelle.
Ouais, je vais vous décrire quelque chose, Guillaume Éveillard. Frédéric est devenu toute blanche quand vous avez parlé de la Méditerranée. Je sais pas si elle a des projets ou quoi. En tout cas, on peut regarder tout simplement au Médusarium de Paris, mais on peut aussi apprendre et notamment avec des méduses de tous les âges. Ça vit combien de temps une méduse?
Quelques mois, nous l'a dit tout à l'heure.
Ah oui, quelques mois.
Voilà, de quelques mois à 2 ans maximum.
À 2 ans.
Maximum. C'est très fragile, c'est pour ça qu'il n'y a pas de décor dans les bassins, parce qu'elles pourraient abîmer leur corps dessus.
Tout à fait, oui. Si on mettait des roches, les méduses se seraient déchirées par les roches.
Est-ce que c'est intelligent? Est-ce qu'on a réussi à comprendre à quoi ça pensait, une méduse?
Alors non, les méduses, en fait, sont exactement comme les anémones. Sauf qu'elles sont libres et elles sont retournées. Elles ont la tête à l'envers par rapport à l'anémone. Mais c'est exactement la même structure animale. Donc, les gens, généralement, ne se posent pas la question de savoir si une anémone est intelligente. Eh bien, la méduse, c'est exactement pareil. Les méduses n'ont pas de cerveau. Elles ont quelques neurones, mais qui ne sont pas reliés. Donc, il n'y a pas de système nerveux. Mmh. Et effectivement, donc, elles n'ont aucune intelligence.
D'accord, mais ça ne nous empêche pas de venir les admirer. Donc, ce nouveau médusarium à l'Aquarium de Paris, avec notamment, pourquoi pas, une spéciale Saint-Valentin. Ce serait l'occasion. Vous organisez quelque chose à l'Aquarium à cette date?
Oui, tout à fait. Il y aura une soirée spéciale dans le médusarium pour la Saint-Valentin.
Formidable. Merci beaucoup de nous avoir parlé de cet endroit assez exceptionnel, unique en Europe, Guillaume Éveillard.
Merci à vous.
Et on aura compris que la spécialiste des méduses, c'est Frédéric Le Tornier, pas Denis Farou.
On ira quand même voir le nouveau médusarium. Je rappelle que c'est à l'Aquarium de Paris.
Une heure en France. Denis Farou, Frédéric Le Tornier sur France Bleu.
Ah, en ce moment, c'est la période où on a envie de découvrir tout ce qui se passe de nouveau dans les stations de sport d'hiver. Voilà pourquoi nous nous arrêtons en Haute-Savoie, à Voria, là où un hôtel d'un nouveau genre, un hôtel éphémère, a été installé au pied des pistes. Alors en fait, il s'agit de containers transformés en chambres avec vue sur la montagne.
Oui, des vrais containers au départ, mais qui ne ressemblent plus vraiment à des containers aujourd'hui.
On fait la visite avec le célèbre designer qui a conçu le Flying Nest, c'est le nom de l'hôtel. Bonjour Oraito.
Bonjour.
Cette idée, elle vous est venue comment? Vous souhaitiez qu'une chambre d'hôtel se déplace en même temps que vous? C'est un peu ça?
C'est ça. Exactement, l'hôtel Follow Me.
Et ces containers, ils viennent d'où exactement?
L'idée, c'était d'avoir, de ne pas réinventer la roue. Et donc, la structure du container nous a paru la meilleure solution. Voilà.
Alors, ce sont des containers avec une baie vitrée au pied des pistes. On se réveille et on voit passer un rat-track. On a vraiment les pieds dans la neige.
Ouais, c'est vraiment l'idée de créer... qu'il n'y ait plus de frontières finalement entre l'intérieur et l'extérieur et qu'on ait l'impression d'être dans la neige en réalité avec cette vide carrée qui offre une vue magnifique sur des panoramas qui vont être forcément différents.
Alors, Oraito, faites-nous la visite. Comment c'est agencé à l'intérieur de ces containers?
Alors c'est agencé de manière, c'est pas grand, donc il faut trouver des solutions pour gagner de l'espace, donc il y a des nappes coulissantes, sous les lits il y a une petite niche en bois qui comporte le lit, donc comme une alcôve finalement, complètement cadrée sur la vitre, qui donne donc sur l'extérieur et qui donne une proximité avec l'extérieur quand on est dans le lit, tout en étant dans quelque chose de très cocon, comme une espèce de couche affective, puisque c'est en bois et ça fait tout le tour. Voilà. Mais après, il y a tout le confort. Donc, il y a une douche, bien sûr, des toilettes, la clim, le chauffage, etc.
Il y a tout ce qu'il faut. Comment vous avez travaillé, en fait ? Vous vous êtes basé sur l'orientation, la vue, c'était le principal élément ?
Alors, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est justement ça, c'est qu'on peut choisir nos vues, puisque nous n'avons pas de permis de construire et qu'on se met à chaque fois dans un espace vierge qui n'a jamais et qui n'aura jamais de construction. Ce qui en fait des expériences complètement uniques.
On a entendu des vacanciers nous dire ce qu'ils en pensaient, avec notamment France Bleu, Pays de Savoie. Écoutez bien, le premier n'a pas testé, le second oui.
Moi, je suis un peu sceptique. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a une grande baie vitrée. Ça, oui, donc il y a le soleil, on voit bien comment ils sont orientés, qui rentrent dedans. Mais c'est vraiment tout petit, quoi. Ça fait la largeur d'un lit. C'est original.
Ben, la nuit s'est passée très bien. C'est très confortable. Il y a un grand lit. Puis le matin, au lever, avec la vue qu'on a sur le domaine, c'est quelque chose d'extraordinaire quand même.
Ils sont surpris, les vacanciers au Raïto, en général?
Écoutez, de ce que j'en ai vu, oui, ils sont agréablement surpris. C'est vrai que de l'extérieur, l'idée, c'est de vraiment s'intégrer dans la nature, de pas être ostentatoire. Il est voué à aller à la montagne, mais aussi il est voué à aller dans la forêt, dans la mer. Donc il fallait trouver une unité qui fasse, qui puisse s'intégrer dans différents paysages. Et voilà.
Mais du coup, alors on va le déplacer à la campagne, à la mer. Je suis obligée de vous poser cette question. En combien de temps l'hôtel se monte-t-il ?
Très rapidement. Ça, c'est justement aussi la raison pour laquelle nous avons opté pour la structure des conteneurs, puisque ça tient dans un camion et après, on peut installer ça en quelques jours.
Voilà. Ça veut dire que les hébergements.
Je pense que Avoriaz a été fait monter en deux jours.
Simplement, d'accord. Et il y a combien de conteneurs, donc de chambres en tout, dans l'hôtel ?
Ça dépend, il me semble qu'il y en a 25, oui. Mais on peut bien sûr aller jusqu'à 300, enfin ça n'a pas de limite en réalité.
Est-ce que vous savez déjà où les conteneurs, enfin je ne devrais pas dire les conteneurs, les ex-conteneurs seront installés l'été prochain quand la saison sera terminée en Haute-Savoie ?
Écoutez, on est en train d'y réfléchir. Il se peut que ça aille même, que ça dépasse nos frontières. Donc voilà, malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus.
Alors c'est pour le plaisir des vacanciers, on l'a compris, on va préciser le prix. D'ailleurs, le prix de la nuit est de 150 euros. Mais ça pourrait également régler un autre problème, celui des logements des saisonniers, pourquoi pas ?
Oui, c'est vraiment... moi, je pense que c'est complètement un concept qui est d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ça permet d'avoir des logements rapides.
Allô ? Est-ce que vous nous entendez, Raïto ? J'ai l'impression...
On a bien fait de lui poser.
Ah oui, ça y est, on vous attend. Excusez-nous, on n'a pas entendu la fin.
Oui, ça permet de pallier pas mal de problématiques et de pouvoir, en très peu de temps, monter toute une série de logements. Donc c'est un peu la solution de l'époque, je dirais.
Et quand on est architecte, designer comme vous, Raïto, vous avez fait de nombreux, réalisé de nombreux...
Je suis designer, je tiens à le préciser.
D'accord.
Je fais de l'architecture avec des architectes, mais je dis...
Designer, essentiellement. Voilà. Vous avez réalisé de nombreux projets. Est-ce que c'est un défi quand on a de si petits espaces ? Est-ce que ça va avec votre concept de simplexité, comme vous le dites parfois ?
Oh, c'est joli, ça.
Oui, analogisme entre simplicité et complexité. Mm-hmm. Tout à fait. Ça, moi, j'aime les challenges, déjà. J'avais déjà travaillé sur un hôtel, mon premier hôtel à Paris, où il y avait des toutes petites chambres. Donc, j'avais pu expérimenter un peu la manière dont on pouvait agencer, optimiser au maximum un espace. Et c'est vrai que même dans un petit espace, quand c'est bien agencé, on le ressent pas vraiment. D'ailleurs, les gens qui ont testé, qui ont testé de l'extérieur, mais qui n'ont pas vécu l'expérience, ont deux discours totalement différents.
En effet, on l'a entendu.
L'hôtel éphémère à Avoria, ou Avoriaz, le débat est lancé dans des anciens conteneurs.
Et ça s'appelle Flying Nest. Merci beaucoup de nous en avoir parlé aujourd'hui, Raïto. Merci infiniment.
Merci, au revoir.
Bonne journée, au revoir.